versione in metallica. Bonsoir, bienvenue dans ce spécial dialogue entre Congolais, deuxième partie donc, de cette émission. Comme vous le savez, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est mis en sigle, vient de procéder à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier en RDC. Il ressort de cela que le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, vient de rapporter cette élection avec environ 73,34% des voix. Et donc, c'est lui qui est déclaré le vainqueur de cette présidentielle. Il va donc briguer son second mandat à la tête de la RDC si ses résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle. Quelle analyse de faire des résultats provisoires de la présidentielle en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons pour cela le professeur Pierre Virgence, et le politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Bonsoir, professeur Pierre Virgence.
Bonsoir.
Professeur Pierre Virgence, est-ce que vous êtes là?
Oui, vous m'entendez?
On vous attend difficilement. Allô?
Oui, moi, je vous entends bien.
Ah, ok. Là, maintenant, ça s'est amélioré. Merci beaucoup. Et aussi, Frédéric Amani, il est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Bonsoir, monsieur Frédéric Amani.
Bonsoir, monsieur Guimaté.
Et lui, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre, c'est Alain-Joseph Lomanja, analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Merci beaucoup une fois de plus, bienvenue dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, Félix Tshisekedi Tshilombo, proclamé provisoirement président élu de la RDC du scrutin du 20 décembre dernier avec plus de 13 215 000 voix de suffrage exprimées, soit 73,30%. Denis Kadima, président de la CENI, vient de l'annoncer il y a quelques heures depuis le centre Bosolo ici à Kinshasa. D'après ses résultats, sur 41 738 628 électeurs attendus, 18 045 348 Congolais ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Denis Kadima, on va l'écouter dans ses messages lorsqu'il a annoncé ses résultats.
Sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide le résultat provisoire de l'élection du président de la République tenu en date du 20 décembre 2023 se présente comme suit. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ayant obtenu 13 215 366 voix de suffrage valablement exprimées, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président.
On va écouter Cynthia qui va essayer de faire un petit commentaire par rapport à ces résultats. Cynthia, peut-on affirmer que la publication de ces résultats provisoires, en attendant les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, marque ainsi le dénouement de ces processus électoraux?
Tout à fait, Guy. La CENI a décidé de ne pas attendre les résultats consolidés des centres locaux de compilation conformément à la loi électorale afin d'éviter tout retard, a précisé Denis Kadima. C'est ainsi que la centrale électorale a, dès le 23 décembre, commencé à publier au fur et à mesure les tendances de vote depuis le centre Bosolo installé dans la commune de Lagombe, ici à Kinshasa. C'est l'une des particularités de ce cycle électoral. D'après des observateurs, cela contribue à décrisper la tension post-vote à travers le pays. Denis Kadima a même déclaré qu'il n'aura pas besoin de recourir à un dispositif militaire renforcé. Je ne vais pas publier les résultats dans un char de combat. Cela se fera dans cette même salle du centre Bossolo à la lumière du jour, a-t-il déclaré. In fine, selon les calendriers de la CENI, les résultats provisoires sont rendus publics ce 31 décembre 2023 pour la présidentielle et le 5 janvier pour les législatives provinciales et municipales partielles. Entre le provisoire et le définitif, c'est l'épisode des contentieux devant les instances judiciaires. Les résultats définitifs seront annoncés les 10 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. La prestation de serment du président élu est prévue pour le 20 janvier 2024. Soulignons par ailleurs qu'une commission d'enquête a été mise en place par la CENI pour documenter les incidents ayant émaillé ces élections. C'est par exemple des machines à voter qui se sont retrouvées chez des personnes sans qualité. Un rapport est attendu et les décisions seront prises en conséquence.
Merci à vous, Cynthia Bachizi. Professeur Pierre Virgence, on commence avec vous. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Les résultats de la présidentielle que vient de publier la CENI donne Félix Tshisekedi comme président élu à titre provisoire. Comment vous analysez ces résultats?
Bien, on doit d'abord se rappeler que ce sont bien des chiffres provisoires. Je dirais ce n'est pas du tout le dénouement, je répondrai à l'inverse de votre journaliste. Hein. C'est pas le dénouement du processus électoral, c'est une des étapes finales. Mais effectivement, pour avoir un résultat complet et consolidé, je dirais, il faudra attendre d'avoir les chiffres complets, parce que il est possible qu'il y ait des questions énormes qui se posent sur le nombre de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert et sur toute une série de problèmes qui se sont posés durant ces élections. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que si on prend le nombre total d'électeurs, hein, 44 millions d'électeurs inscrits, je veux dire, eh bien, il n'y a quand même que 18 millions qui ont voté pour Félix Tshisekedi, le président sortant, c'est-à-dire seulement 30%. Donc il faut voir maintenant comment auraient voté ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voter parce que les machines à voter sont arrivées trop tard ou ne sont jamais arrivées. Et effectivement, et là, ça va être un vrai problème. Et c'est un problème politique, c'est pas seulement un problème juridique. Le problème juridique a été très bien présenté par votre journaliste, Cynthia. Mais je pense qu'il y a un problème politique, c'est-à-dire l'acceptation des résultats par la population surtout, et par les autres acteurs politiques, évidemment, qui sont importants pour mobiliser la population. La première chose que je rappellerai, c'est que pour le moment, puisque nous n'avons pas les chiffres consolidés, ça ressemble plutôt à l'élection de 2011, où on n'avait pas eu les chiffres complets depuis chaque bureau de vote et depuis chaque bureau de dépouillement jusqu'au total pour le pays. Et je dirais, au moins, ça a l'avantage de ne pas ressembler à l'élection de 2018-2019, où le président déclaré par la CENI n'était en rien un président élu, puisqu'on n'avait eu que des pourcentages, on n'avait même pas eu de chiffres absolus, et on n'avait pas eu du tout de chiffres depuis chaque bureau de vote. Donc là, on n'avait vraiment rien eu. Ici, ça ressemble plutôt à la lourdeur, je dirais, de la tricherie possible en 2011. Parce qu'on ne peut parler pour le moment que d'hypothèses, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de faire des vérifications scientifiques, des vérifications officielles faites par la CENI, ne l'oublions pas, sont quand même des vérifications officielles faites par des gens qui travaillent avec Félix Tshisekedi et qui ont été nommés par lui.
Oui, professeur, le président Félix Tshisekedi est réélu provisoirement avec 73,34% des voix. On rappelle que c'est une première depuis 2006. Comment vous expliquez ces scores?
Eh bien, une des premières hypothèses, c'est le fait qu'il y aurait eu de la tricherie. Ce n'est pas impossible. La deuxième hypothèse, c'est que peut-être beaucoup de gens se sont dit, on va attendre, tant pis, voilà, parce que le processus électoral n'a vraiment pas l'air clair, tant pis, on va pas aller voter, on va même pas se fatiguer pour ça, et on attendra la prochaine échéance électorale pour être sûr que ce soit quelqu'un qui ne soit pas de son camp, qui soit nommé à la prochaine élection en 2028. Et donc, voilà, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que peut-être... il y a une partie de la population qui se retrouve dans le fait d'avoir un président qui parle plus quand même que Joseph Kabila, qui était très taiseux et très taciturne. Ici, on a un président qui parle plus, il n'agit pas beaucoup plus apparemment, mais effectivement, il parle plus, donc peut-être qu'il est séduisant pour une partie de la population congolaise. Et peut-être aussi qu'il y a une sorte d'état de fait, hein, même dans certaines régions, je dirais, éloignées de la capitale, il y a des gens qui se disent « il vaut mieux être du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, et donc on va montrer qu'on a voté pour le président de façon à pouvoir être considérés comme des alliés possibles et éventuellement avoir des retombées politico-économiques directes. »
Oui, professeur Vigence, nous rappelons que la mission d'observation électorale CENCO-IFSC a publié son rapport préliminaire jeudi 28 décembre dernier, révélant qu'un candidat se distingue nettement avec plus de la moitié, n'est-ce pas, des suffrages. À votre avis, qu'est-ce que ce rapport qui était très attendu peut avoir apporté comme nouvel élément, n'est-ce pas, dans l'attente de ces résultats de la présidentielle?
Le premier élément, c'est un effet, je dirais, de légitimation de l'élection actuelle, puisque la première, je dirais, l'annonce du chiffre du résultat de Félix Tshisekedi par la CENI correspond, en gros, je dirais, à ce qui avait été, d'une certaine manière, annoncé par la CENCO, et donc on peut dire que c'est une sorte de légitimation. Maintenant, il faudra attendre le rapport définitif, hein, comme vous le signaliez, c'était un rapport préliminaire. Il faudra attendre le rapport définitif pour voir effectivement le nombre de fautes ou d'erreurs qu'il y a eu dans le processus électoral et voir si ça a pu entraver effectivement le résultat final. Puisque pour le moment, on n'a aucune idée de l'ampleur des fraudes. On sait bien qu'à chaque élection, dans chaque pays, hein, il y a des fraudes, tout le monde le sait. Mais on ne sait pas l'ampleur réelle de ces fraudes, et donc on aura une idée de l'ampleur réelle de ces fraudes quand il y aura la publication du travail de la CENCO et quand il y aura la publication des résultats complets affichés par la CENI et approuvés par la Cour constitutionnelle. Donc là, on aura à ce moment-là les instruments, je dirais, pour juger, mais le citoyen, lui, n'attend pas ça, et le citoyen a besoin de savoir rapidement ce qui se passe, et je dirais d'une certaine manière, le citoyen maintenant a déjà un résultat provisoire, mais officiel en main.
Voilà, vous avez évoqué deux problèmes, hein, l'un juridique et l'autre politique. Oui. Prenons les problèmes politiques. Quelle est la question politique que posent ces élections?
La question politique, c'était de savoir si on avait donné les moyens à la CENI d'organiser correctement les élections. On sait bien qu'il y a eu une série de problèmes logistiques. On sait qu'il y a eu une série de problèmes budgétaires à la CENI pour pouvoir avoir le matériel et le disperser sur l'ensemble du territoire, qui est quand même un territoire énorme. Donc là, on sait qu'il y a une série de problèmes et c'est une des questions principales, je dirais, de l'élection. Un autre problème, alors, c'est de savoir si les Congolais sont peut-être simplement satisfaits, hein, si les chiffres n'ont pas été trop trafiqués, je dirais, s'ils ont été simplement un peu trafiqués, peut-être que les Congolais sont relativement satisfaits parce qu'ils se disent, en fait, ce n'est pas un président de la République qui s'est changé notre vie, un président de la République qui peut faire que, éventuellement, il y ait moins de désordre, moins d'insécurité. Et la plupart des gens qui ont eu l'occasion de voter, puisque dans les régions en insécurité, on n'a pas eu l'occasion de voter, il n'y a pas trop d'insécurité. Donc peut-être qu'effectivement, c'est une satisfaction globale d'un pouvoir politique qui est peut-être moins nuisible que ce que beaucoup de gens craignaient, je ne sais pas.
Oui, à partir du moment où aucun des candidats, n'est-ce pas, lésé, des candidats malheureux, aucun n'a saisi la cour, aucun n'a saisi la justice, peut-on dire que la question juridique n'est pas encore vidée?
Oui, on peut dire que la question n'est pas encore vidée, puisque effectivement, il faudrait, ils ont effectivement une possibilité contentieuse à leur disposition, et là on verra comment leurs états-majors vont réagir dans les jours qui viennent. Alors certains ont déjà annoncé, on l'a entendu, que ça ne valait même pas la peine de porter de l'affaire devant les cours, puisque les cours ont été nommés, enfin, les membres des cours ont été nommés par le président sortant, et donc ils se disent nous aurons de toute façon un avis partial. Mais voilà, parfois les cours font leur travail et ça vaut peut-être la peine de poser quand même des questions, parce que dans certains pays, effectivement, il y avait des gens qui ont été nommés par certains présidents et qui ont eu, je dirais, le devoir d'ingratitude, comme le disent certains magistrats, c'est-à-dire qui ont jugé impartialement alors qu'ils avaient été nommés par quelqu'un. Donc ici, je trouve que ça vaudrait la peine pour eux, s'ils estiment qu'il y a eu des fraudes suffisamment massives pour pouvoir empêcher l'écart, hein, parce que c'est quand même un écart de plusieurs millions de voix, hein, puisque l'écart entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi est quand même énorme, hein, ça fait presque 10 millions de voix, hein, c'est quand même catastrophique pour Katumbi. Il faudrait trouver une fraude de quasiment 10 millions de voix ou un empêchement de voter de plus de 10 millions d'électeurs pour pouvoir prouver qu'il aurait pu avoir un renversement des rapports de force électoraux. Et là, moi je pense que, enfin, si j'étais dans des états-majors, et si les états-majors ont des informations comme quoi il y a eu des fraudes massives, ben, il faudrait effectivement qu'ils le documentent, et donc qu'ils amènent là, les photographies de leurs observateurs à la sortie des bureaux de vote, à la sortie des bureaux de dépouillement, et à ce moment-là, envoyer cela et confronter cela au résultat officiel s'ils ne correspondent pas à ce qu'ils ont comme document. Et là, c'est comme ça qu'on fait une plainte juridique solide, je dirais, c'est en faisant remonter les résultats depuis les bureaux de dépouillement.
Merci Frédéric Amani, est-ce que vous êtes là? Frédéric Amani, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà,
je suis là.
Je rappelle que vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes également expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Et vous, également, votre analyse par rapport à l'élection provisoire de Félix Tshisekedi avec 73,34% des voix.
Bien. Yeah. Merci beaucoup pour l'invitation et la parole. Je salue aussi le professeur Pierre ainsi que l'ensemble des auditeurs des radios Capi. Alors, l'analyse qu'on peut faire par rapport à la publication des résultats de l'élection présidentielle en donnant au président Félix 73%, je crois que il faut d'abord relever qu'il y avait beaucoup d'irrégularités, et les différents rapports ont relevé cela, et même le professeur aussi venait d'en parler, et ces irrégularités devraient, je pense, être évitées si, de mon point de vue, ces processus dès le début étaient plus consensuels autour, n'est-ce pas, d'un cadre de concertation bien établi, malheureusement. Et on comprend qu'il y a aussi d'autres erreurs que la CENI aurait dû éviter si la liste des électeurs était publiée 48 heures avant, comme le dit la loi électorale. Eh bien, je crois que il y aurait aussi un engouement, je constate, au regard de l'élément de votre confrère, qui a 43% de suffrage ou de participation d'électeurs, et 57% d'abstention. C'est énorme. Et je crois que cela est dû au fait qu'il y a certains électeurs qui se sont présentés au bureau de vote le matin et il fallait attendre peut-être autant d'heures, autant de temps pour passer dans les bureaux de vote pour répondre à leurs devoirs, malheureusement. Donc, et aussi un autre élément, c'est que aujourd'hui ces résultats ont été publiés, bien que ce soit provisoire. Nous attendons la Cour constitutionnelle pour la confirmation ou l'invalidation. Mais ce qui est important ici, c'est de voir est-ce que le problème où le souci était de respecter les délais constitutionnels, parce qu'on ne les dit pas assez. Est-ce que était important de respecter les délais constitutionnels ou d'allonger ces processus d'une semaine, de 10 jours, pour permettre à ce que les différents problèmes constatés, le vote est allé jusqu'à 4-5 jours, alors que la loi ne le prévoit pas. Et maintenant, quelle a été l'explication du président de la CENI par rapport à ces prolongements? Je pense que ce soit du côté de l'opposition ou de la société civile, en montrant que pendant ces trois, quatre jours de prolongement, il y a eu ces fraudes ou ces régularités, je crois que ça risque encore d'entacher à ces processus. Un autre élément, c'est que ces processus a été mis en place dans un climat de méfiance où on a senti certains camps ou certaines parties prenantes se retirer du processus et quelques temps après, ils sont revenus dans le jeu. Mais nous saluons le travail qui a été fait parce que c'est une œuvre humaine, il ne manque jamais d'imperfection et nous pensons que désormais, il n'y aura pas de surplace. Excusez-moi, Monsieur Guimaté, de revenir sur cet aspect des choses. On a tendance à penser corriger les erreurs du passé, mais malheureusement, on entre dans les erreurs, et excusez-moi, des faits peut-être plus graves que les erreurs du passé, malheureusement. Moi, je pense que au regard des failles constatées dans ces processus, le quatrième cycle, je le rappelle, eh bien, le prochain cycle va corriger ces erreurs et pour permettre à ce que, parce que les élections, c'est un élément fédérateur, un élément qui consolide l'unité et non un élément qui contribue à la division ou à la violence. Nous pensons que les processus prochains, les cycles prochains, toutes les parties prenantes vont apporter les efforts nécessaires pour que le processus électoral consolide l'unité nationale et que le candidat qui sera proclamé et élu, n'est-ce pas, travaille à matérialiser un projet qui va permettre à ce que ce pays sort du gouffre. Quand même, c'est paradoxal de voir un pays qui est à son quatrième cycle électoral, mais autant d'irrégularités reviennent et tous ceux qui viennent pour apporter un changement ou un plus par rapport à l'amélioration des conditions de vie de la société, malheureusement, c'est un statu quo ou un rendez-vous manqué de l'histoire où le peuple continue à subir, n'est-ce pas, les affres de la mauvaise gestion, par exemple, les affres, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance. Pourquoi? Parce que il y a certaines erreurs qu'on ne sait pas corriger à temps. Voilà comment on peut analyser, mais nous félicitons le candidat Reli et nous appelons, surtout c'est important, nous appelons le peuple congolais à l'unité et à la cohésion nationale parce que ce qui est important, ce n'est pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais c'est pour que le Congo puisse décoller, c'est pour que le Congo puisse aller de l'avant autour, n'est-ce pas, d'un projet fédérateur, un projet qui va inclure toutes les tendances confondues.
Frédéric Amani, Félix Tshisekedi vient d'être réélu provisoirement avec 73% des voix. Est-ce que le fait pour l'opposition d'être parti en ordre dispersé peut à lui seul expliquer, n'est-ce pas, ses scores élevés ou alors il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela?
Bien, merci beaucoup pour cette question pertinente. Mais moi je pense que, comme toujours, le pouvoir en place a réussi d'abord à émietter ou à diviser l'opposition, que ce soit le régime passé et même le régime actuel. Et cette division de l'opposition a permis d'avoir une opposition plurielle, où chaque candidat opposant pensait être indispensable que l'autre, malheureusement. Et l'opposition était allée en ordre dispersé, qui a aussi favorisé ou donner un boulevard au candidat sortant, celui qui vient d'être réélu. Alors, moi, je pense que cela a contribué, mais il y a aussi d'autres facteurs, notamment le discours. Le discours parce que on ne le dit pas assez, le moment des campagnes, surtout au niveau présidentiel, c'est un discours programme, un projet de société offrant que les souverains primaires devraient s'approprier. Malheureusement, lorsque vous lisez les différents projets de société des différents candidats, eh bien, bon, excusez-moi de le dire comme ça, à un certain moment, on pensait que c'était des copier-coller ou c'était des projets de bonnes intentions, mais la matérialisation devrait poser problème. Et un autre élément aussi, on ne doit pas oublier que les votes en RDC, bien que c'est discutable, le vote est sociologique. Alors, il faudrait que chaque candidat président, à ses pointants, doit aussi, n'est-ce pas, compter sur un certain nombre de leaders du coin. Ça, c'est un autre aspect qu'il faut tenir en compte. Et enfin, le vote au niveau présidentiel, c'est aussi un vote populiste, excusez-moi de le dire ainsi, dans la mesure où la population a besoin d'entendre ce qu'il veut. Excusez-moi de le dire. Du fait que, à l'Est, le président qui venait d'être réélu, le président Félix, s'en prenait trop à son homologue, le président Kagame, à un certain moment, on a senti une liesse ou un engouement à son électorat. Et que, bien que, et un autre élément, du fait que, parce que, on n'oublie pas qu'en Afrique et au Congo, on a toujours pensé à cette fameuse théorie du complot, où on pense que le malheur des Africains ou le malheur du Congo serait aussi lié à l'étranger, eh bien, en parlant de l'étranger, en montrant que le danger ou le mal, c'est l'étranger aussi, ça peut contribuer à avoir un électorat. Donc, autant de facteurs qui ont concouru à ce que le président Félix soit réélu avec ce score. Mais nous pensons que, au moins pour cette expérience, l'opposition désormais, c'est le souhait aussi des Congolais, l'opposition désormais n'ira plus en ordre dispersé et que il y aura un engouement autour d'un leader avec un projet fédérateur pour battre campagne. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, en fait, je crois l'avoir dit que, sans minimiser d'autres candidats, le match était entre le président réélu Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, je l'avais dit avant, et je ne minimise pas les autres. Mais ce qui est quand même un peu triste, excusez-moi de le dire ainsi, c'est que les candidats opposants qui ont refusé de se mettre ensemble parce qu'il fallait porter un candidat opposant au sommet, mais lorsqu'il s'agit de contester les élections, vous voyez, le candidat président Dr Mukwege, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres, alors que à un moment durant la campagne, ces candidats ont semblé se jeter des piques, alors qu'il y avait possibilité de se mettre ensemble bien avant pour faire un match entre les candidats qui venaient d'être réélus malheureusement. Donc un problème de stratégie électorale a aussi favorisé à ce que l'opposition puisse perdre.
Justement, cette opposition appelle la population à rejeter ces élections. À quoi peut-on s'attendre? Quels pourraient être, à votre avis, les scénarios possibles?
Ah, les scénarios possibles par rapport à l'appel des leaders d'opposition, ces scénarios seraient décevants, ce que je ne souhaite pas, parce que on ne doit pas minimiser que les candidats opposants sont des leaders, des tailles encore, dont leurs mots sont suivis, que ce soit les candidats Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege et bien d'autres. Mais je ne le souhaite pas. Voilà pourquoi il est important maintenant, les camps du président Félix et les camps des opposants doivent se mettre ensemble parce que c'est les Congos qui gagnent. Je l'ai dit, ce n'est pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais ça doit être la victoire de tous les Congolais.
Merci.
Il est vrai que les irrégularités ont été décriées, la fraude ont été décriées, mais faudrait-il que aussi l'opposition le prouve devant les instances judiciaires pour que la Cour constitutionnelle puisse annuler cette élection et organiser une autre si le cas. Mais je pense que l'appel des leaders doit, ils doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, sinon si ils s'attenaient à ce que le peuple puisse défendre leur vote, eh bien, je crains que les jours à venir soient sombres, ce que je ne souhaite pas, mais je plaide à ce que les camps du président Félix et les camps de l'opposition puissent, n'est-ce pas, harmoniser leur vie pour empêcher à ce que la RDC puisse vivre d'autres scénarios post-électoraux, notamment le coulement des sangs et l'instabilité politique, alors qu'il y en a déjà.
Merci, merci. On devait aussi avoir Alain-Joseph Lomanja, analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Malheureusement, on n'arrive pas à les joindre. Là, on va aller à Mbujimayi hein, pour voir l'ambiance dans cette ville. On sait que Mbujimayi est le chef du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient d'être réélu à titre provisoire. Et on va voir l'ambiance dans cette ville avec vous, Esther Ndalafina. Est-ce que vous êtes là?
Je suis là, Dumaté. Bonjour. Je salue aussi tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bonjour, Maman Esther. C'est quoi l'ambiance pour le moment dans la ville de Mbujimayi, au Kasaï-Oriental?
Merci, Dumaté. Je peux dire que quelques heures après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, l'ambiance est toujours festive en Mbujimayi. Les habitants en liesse sont sur les grandes artères de la ville. Il est pour l'instant difficile d'arriver d'un point à un autre suite aux embouteillages constatés pour la première fois en pareille circonstance. Des marches, des caravanes motorisées sont constatées sur plusieurs artères. Les crépitements de pétards sont aussi entendus presque partout. Des milliers de personnes, donc je peux dire des jeunes, des vieux, sont sortis de leur résidence. Certains chantent, d'autres crient pour manifester la joie. Il y a d'autres aussi, hein, d'autres personnes qu'on voit sur donc devant les débits de dansons, même dans des terrasses en train de danser. Donc l'ambiance est donc électrique sur la ville. Mais une faute note, Guy Mathieu, c'est en fait la destruction du siège de Ensemble pour la République, hein, donc situé sur le boulevard Monsieur Laurent Désiré Kabila, c'est en diagonale de la Banque centrale dans la commune de Djounou. Nous venons donc de l'apprendre.
Vous venez de l'apprendre. Est-ce que vous confirmez l'information? Vous avez été sur place et vous avez vérifié les faits?
Je n'ai pas été sur place, mais je suis en contact avec quelques personnes qui habitent le quartier. On a complètement démoli la maison qui abritait le bureau, donc c'est-à-dire que c'est une maison appartenant à un particulier et le parti politique était locataire. Et maintenant là, on a détruit toute la maison et les gens qui sont au quartier m'ont rassuré. Donc c'est une bonne information, il est vrai.
Ça vient de se passer. Est-ce que déjà vous avez quelques éléments d'information sur les auteurs de ces forfaits?
Difficile pour l'instant de connaître les auteurs parce que tellement qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de partout et qui se croisent, qui se croisent et d'autres vont dans des directions opposées. Donc c'est difficile pour l'instant de connaître. Donc ce sont des personnes non autrement identifiées pour l'instant.
Et à Mbujimayi, quelle était aussi la situation des autres candidats? On sait que Tshisekedi, certainement, il a eu beaucoup de voix. Et le deuxième qui vient juste après Félix Tshisekedi, Katumbi, à Mbujimayi, est-ce qu'il a eu quand même des voix, un nombre élevé de voix?
Il n'a pas eu un nombre élevé de voix ici à Mbujimayi, mais je sais que celui qui a suivi. Donc, le candidat Félix Antoine Tshisekedi, nous pouvons parler de Constant Mutamba parce que lui est passé par Mbujimayi pour aller chez lui à Kabinda, donc dans la province de Lomami, il est arrivé jusqu'à Lebao. Celui-là, quand même, on l'a vu, les gens ils l'ont vu, il y a ceux qui l'ont aimé et qui ont voté pour lui. À part celui-là, donc le candidat qui vient après Félix Antoine Tshisekedi, par rapport au résultat de la CENI, donc Moïse Katumbi ici n'a pas eu beaucoup de voix. En tout cas, je ne peux pas dire. Je pense que c'est pas fameux.
Merci beaucoup, Maître Nelafina. On rappelle que vous interveniez depuis la ville de Mbujimayi au Kasaï Oriental. On va aller maintenant dans la ville de Matadi, dans le Congo central, avec Nana Pleurish Mambou. Nana Pleurish Mambou, bonsoir. Ah, on me dit qu'elle n'est pas encore là. Alors, professeur Pierre Vigens, est-ce que vous pouvez déjà réagir par rapport à ces reportages, n'est-ce pas, que vient de nous faire notre collègue, notre correspondante qui est à Mbujimayi, Madame Esther Delafina?
Ben, on sait que les cycles électoraux, le moment électoral est aussi pour beaucoup de gens dans la population un moment d'affrontement, un moment de dénonciation de gens qui ne sont pas comme les autres, dénonciation du non-conformisme de certains, et on sait que dans certains endroits, je dirais, cycle électoral signifie aussi tout un temps des risques de malversation vis-à-vis de personnes qui ne votent pas comme la majorité. Et donc, c'est quelque chose qui se retrouve dans toute l'histoire des élections, hein. Depuis qu'il y a des élections dans les pays d'Europe, en Amérique, etc., il y a eu des excès de ce genre-là. Et donc, effectivement, c'est le rôle d'un État de droit que d'essayer de les limiter, d'empêcher qu'il y ait des dégâts trop importants. Mais le fait qu'il y ait une tendance populaire à chasser celui qui ne vote pas comme la majorité dans une circonscription, c'est quelque chose d'assez classique, malheureusement. Mais donc ça, je dirais, c'est le tout, c'est de savoir si les leaders locaux ont appelé ou non à faire usage de violence vis-à-vis des bâtiments ou des personnes représentant l'opposition. Et alors là, effectivement, il y a lieu à poursuivre en justice et à rétablir un ordre, je dirais, d'état de droit. Mais ça, on ne sait pas dire si c'est bien ça qui s'est passé. Et voilà, il faut voir si les leaders locaux ont excité leurs militants ou bien si au contraire, ils leur ont dit « Bon, on a gagné, maintenant on n'a pas besoin d'écraser les autres, on a gagné électoralement et ça suffit ». Ça, il faut voir, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver partout et qui arrive encore régulièrement dans toute une série de pays qui se croient industrialisés et civilisés.
Oui, Frédéric Kamani, votre commentaire par rapport à l'ambiance, à cette ambiance dans la vie des Mbujimayi au Kasaï oriental?
Bien, l'ambiance est tout à fait normale parce que on l'a dit que c'est le fief du président réélu, mais je déplore le fait de cette intolérance qui continue jusqu'à la publication où le bureau du Parti de l'Ensemble a été saccagé. Je crois que cette fois-ci, les autorités compétentes vont se saisir de ces dossiers et traduire, parce qu'on ne les dit pas assez, durant la campagne. Il y a eu aussi ces cas d'intolérance politique qui ont été recensés. Malheureusement, les coupables n'ont pas été traduits devant les juridictions, ce qui occasionnerait encore d'autres cas. Nous pensons que cela soit acté de cette manière et que nous souhaitons vraiment, comme je l'ai dit, le prochain jour dépendra aussi des attitudes que les différents leaders de la majorité et de l'opposition vont observer durant ces temps pour apaiser leurs militants à ne pas s'adonner à des violences. Il est vrai que la Constitution l'autorise, vous avez fait allusion à l'article 64, mais de manière pacifique et non en s'apprenant au bien des citoyens, au bâtiment, ça c'est condamnable. Et je pense que les leaders doivent appeler leurs militants au calme et s'il y a possibilité soit d'annuler les élections ou d'aller devant les juridictions, la Cour constitutionnelle, pour, n'est-ce pas, présenter les preuves afin que vraiment, je pense qu'il est temps que la RDC décolle et qu'au lieu de tourner à rond où on organise les élections, pensant que ça va permettre à ce que une accalmie soit là, une stabilité, mais c'est encore un cercle vicieux parce qu'il y a, n'est-ce pas, des troubles ou des incompréhensions. Nous pensons que les Congolais vont n'est-ce pas, pensée république et non pensée intérêt égoïste de X camp contre Y camp.
Professeur Pierre Vigence, on l'a suivi, hein, l'opposition semble ne pas être disposée, n'est-ce pas, à saisir la justice. Et à votre avis, quelles sont les marges de manœuvre que peut détenir cette opposition pour espérer obtenir gain de cause?
Je dirais, puisqu'on est en dehors du système juridique, forcément, ben, y a l'appel à l'insurrection et y a la désobéissance civile, je dirais. Et là, on se souvient effectivement qu'en 2011, Étienne Tshisekedi avait considéré qu'il avait gagné les élections que la CENI, la CENI avait proclamé que c'était Joseph Kabila qui avait gagné. Et là, Étienne, pardon, le père du président actuel avait demandé aux forces de l'ordre de lui donner l'impérium, et tout le monde se souvient que ça n'avait pas marché du tout, parce que dans un système policier et militaire bien organisé, la chaîne de commandement est quelque chose de très important, et donc s'il y avait eu des désistements, des défections à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'il y en aurait maintenant. C'est difficile à imaginer parce qu'effectivement, je dirais Félix Tshisekedi a eu 5 ans pour prendre en main les forces de sécurité de la RDC, et on peut imaginer que Félix Tshisekedi a nommé des gens fidèles à sa personne un peu partout, et donc là on peut s'imaginer que l'insurrection est quasiment impossible, d'autant plus que voilà, pour qu'une insurrection réussisse, il faut qu'il y ait des leaders reconnus. Hein, donc ici, les leaders sont différents les uns des autres et ils ne se reconnaissent pas les uns les autres. Enfin, ils s'adoubent pas les uns les autres. Sinon, effectivement, comme vous l'avez remarqué, comme Frédéric Amani l'a fait remarquer aussi, ben, ils ne seraient pas venus en ordre dispersé. Ils auraient pu s'organiser politiquement préalablement. Et donc ici, on voit bien que le problème est vraiment un problème de maintien du système de sécurité, du système militaire et policier. Et là, on voit bien que ben, dans des grandes villes, ben, on voit bien que les forces de police et militaires protègent les lieux de pouvoir et aussi encerclent les lieux des opposants potentiels.
On me signale que notre correspondante à Matadi, Nana Plurush Mambou, est là. Bonsoir, Nana Plurush Mambou.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à toutes et à tous.
Et quelle est l'ambiance actuellement dans la ville de Matadi après la publication de ces résultats provisoires par la CENI?
Oui Guy Maté, vraiment c'est une première de vivre une telle ambiance à l'annonce de la réélection d'un président de la République au Congo central, qui est d'ailleurs réputé une province de l'opposition, vous savez. Et les habitants du Congo central en général et ceux de la ville de Matadi en particulier se sont livrés depuis cette annonce à une réjouissance sans précédent. Et dans la ville de Matadi, donc jusqu'à maintenant, c'est une ambiance électrique caractérisée par les klaxons des voix de véhicules, des taxis motos, les sifflets, les vouvouzelles résonnent dans tous les sens dans la ville. Et depuis le camp maréchal où je me trouve en ce même moment, les militants de l'UDPS, munis des insignes de ce parti cher à feu Étienne Tshisekedi de Wamulumba, père biologique du président réélu, et provisoirement Félix-Antoine Tshisekedi, sont en caravane motorisée, question pour eux de célébrer la victoire de leur leader. Les débits de boissons qui longent les artères principales de la ville de Matadi ont augmenté le volume de la musique, et plusieurs personnes qui attendaient l'annonce de ces résultats provisoires sont là et exhibent des pas de danse. Et voilà, pour certains Matadiens, les résultats obtenus par Félix Tshisekedi, ces résultats provisoires, reflètent la volonté des Congolais de donner un deuxième mandat au président de la République afin de consolider les acquis de son quinquennat. Et ce quinquennat, ses acquis sont notamment la gratuité de l'enseignement primaire et de la maternité en RDC, ainsi que les infrastructures qui naissent dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Et toute la population du Congo central vraiment espère à l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais et à l'arrêt définitif de la guerre entre la RDC et le M23 soutenu par les Rwandais. laquelle guerre a trop perduré avec les conséquences fâcheuses sur les habitants de la partie est de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Mnana Plurishimamou.
Merci, Guy Mathieu.
Je rappelle que vous êtes intervenu depuis la ville de Matadi au Congo central. Et Frédéric Kamani, lorsque vous suivez Nana Plurishimamou depuis Matadi, elle a évoqué dans sa dernière intervention les comment les acquis, notamment la gratuité de l'enseignement primaire. Mais est-ce qu'on peut aussi considérer que certains électeurs ont préféré, n'est-ce pas, voter pour celui qui a déjà fait quelque chose, qui a déjà concrétisé certaines promesses, que de voter pour un candidat qui s'amène avec des promesses quand on ne sait pas si ces promesses seront effectivement un jour réalisées? Est-ce que la peur de l'inconnu n'a pas poussé certains électeurs à voter pour les candidats Félix Tshisekedi?
Bien, merci beaucoup pour votre question. Je pense que c'est vrai, on peut intégrer aussi cet aspect des choses, la peur de l'inconnu, mais je crois l'avoir dit, et ça vaut la peine de le répéter, s'il y avait un camp qui devrait beaucoup travailler, c'était le camp du président Félix, parce que on avait sur quoi le prendre au mot. Ils avaient un bilan à présenter, vous avez fait allusion à la gratuité, et ça me permet aussi de relever un aspect. Et dans les grands Katanga, le territoire qui est un fief du président candidat Moïse Katumbi, mais dans la province du Haut-Lomami, précisément dans le territoire de Kanyama, où le président Félix a gagné avec 59% contre 37% Moïse Katumbi par rapport, n'est-ce pas, au service national qui est installé là-bas, où la population aussi, n'est-ce pas, bénéficie du travail des services nationaux. Et je crois que c'est parmi aussi les acquis qu'on peut brandir par rapport au président Félix. Il est vrai que la peur de l'inconnu, mais aussi, comme je l'ai dit, il y avait toute une stratégie mise en place par le camp du président Félix, contrairement au camp de l'opposition, avec un certain nombre de leaders du coin. Ça, c'était un atout, mais aussi par rapport, n'est-ce pas, à cet aspect des choses où le vote en RDC est sociologique, et que, sur base de la gratuité de la maternité, de l'enseignement primaire, qui, je crois que, dans ces mandats, il sera amélioré, cette gratuité, eh bien, je crois que ce sont les éléments à mettre à l'actif du président Rélu qui ont permis à ce que le souverain primaire dans ses coins lui donne le deuxième mandat.
Merci, professeur Pierre Virgence. Nous l'avons dit, hein, la CENCO n'a publié que les rapports préliminaires. Et à votre avis, si la CENCO arrivait à publier son rapport et que son rapport final et que ses rapports contiennent des chiffres qui contredisent ceux de la CENI, qu'est-ce qui pourrait se passer à votre avis?
Ben là, le recours à la Cour constitutionnelle serait en principe effectivement la voie pour résoudre le problème entre ces résultats préliminaires, préalables, intermédiaires et les résultats finaux. Donc là, effectivement, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs la prestation de serment était prévue bien après la décision possible de la Cour constitutionnelle. Hein, votre journaliste avait rappelé que c'était pour le 10 janvier. Et donc voilà, la prestation de serment aura lieu 10 jours après. Et donc effectivement, s'il y a un problème, ben, c'est à la Cour constitutionnelle que de trancher le problème qui pourrait apparaître. Et donc on pourrait effectivement décider à ce moment-là de réorganiser les élections si elles ont été mal organisées et qu'il semble que c'est à cause de cela qu'il y aurait un écart de voix permettant de croire que le candidat suivant pourrait gagner ou un autre candidat aurait pu gagner. Donc, mais c'est quand même énorme, hein, parce que pas qu'on a quand même ici presque 10 millions de voix d'avance pour le président sortant. Je ne suis pas sûr du tout qu'un autre candidat pourrait rattraper cet écart-là. Hein. Mais voilà, je reviens aussi à l'explication. Vous aviez demandé demander à mon collègue Frédéric Amani si c'était la peur de l'inconnu qui avait poussé peut-être les gens à voter pour le président sortant. Je pense que je reviens aussi sur l'hypothèse que j'avais soulignée, hein, l'utilitarisme de certains électeurs qui se disent qu'il vaut mieux que le pouvoir en place sache que nous sommes favorables au pouvoir en place pour pouvoir avoir des retombées économiques. Je pense que l'utilitarisme de l'électeur ne doit vraiment pas être sous-estimé. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement dans tous les pays qui ont des élections depuis plus d'une centaine d'années. Beaucoup d'électeurs commencent par se demander mais qui est au pouvoir d'habitude ici et quel est le risque le moins élevé que je cours pour pouvoir élire quelqu'un qui pourrait être au pouvoir. Et donc, j'irais voter de façon purement programmatique ou idéologique, c'est relativement rare. Il y a plutôt effectivement une pesanteur sociologique du poids du pouvoir qui fait que beaucoup de gens votent comme le pouvoir leur semble le vouloir et l'exiger. Et la question qui va se poser dans le mandat à venir, ça va être de savoir comment Félix Tshisekedi va organiser sa succession s'il souhaite que ce soit effectivement l'UDPS qui gagne l'élection suivante. Parce que là, ça veut dire qu'il faut faire émerger un nouveau leader possible et permettre effectivement, alors à ce moment-là, une élection toujours dans son camp. Puisque l'UDPS, ne l'oublions pas, est à peu près le seul parti politique en République démocratique du Congo qui a été créé il y a plus de 40 ans. Hein. Donc voilà, il a été créé en 82, c'est quand même important, et donc c'est quand même un parti qui a une histoire et qui pourrait effectivement essayer de former une vraie force politique. Pour le moment, ce qu'on peut dire aussi des résultats, c'est vrai que j'avais pas pensé à dire ça tout à l'heure quand on m'a vu poser la question, les 73% de Félix Tshisekedi ressemblent quand même aux quelques 80% qu'il avait obtenus quand la CENI avait fait ses premières proclamations avec 22 circonscriptions seulement et les votes des Congolais de l'étranger. Donc là, on a quand même un résultat qui ressemble à ce qui était annoncé tout au début, et c'est peut-être ça aussi qui explique c'est à la fois cette peur de l'inconnu et cet utilitarisme. L'utilitarisme n'étant que la version positive de la peur de l'inconnu.
Oui, professeur, l'opposition rejette ces résultats, conteste ces résultats publiés par la CENI. Est-ce que des négociations avec cette opposition peuvent être envisageables dans un avenir proche?
Oh, certainement que certains qui étaient candidats contre Félix Tshisekedi se sont déjà organisés pour négocier une éventuelle place de ministre moyennant une, je dirais, courbe rentrante vers la soumission aux résultats de l'élection. Et donc là, c'est fort possible qu'il y ait des choses qui se passent. Mais je pense que entre les grands candidats, ou par exemple, avec le président précédent, hein, n'oublions pas que Joseph Kabila avait dénoncé l'organisation du processus électoral, et il n'est pas impossible qu'il y ait une force politique qui puisse réémerger dans les années qui viennent autour du président Joseph Kabila, de l'ancien président Joseph Kabila. Et donc ici, il est possible que des gens forts comme Katumbi, Fayoulou et Kabila refusent de négocier, mais il est fort possible que toute une série d'autres acceptent de négocier pour, je dirais, soit se voir reconnu personnellement, soit de voir reconnu ce qui était leurs objectifs de campagne.
Merci, nous allons conclure. Frédéric Amani, quelles leçons peut-on tirer, n'est-ce pas, de cette élection présidentielle? C'est votre conclusion. Voilà, apparemment il est parti, on va essayer de le rappeler. Et oui. Professeur Pierre Vougeance, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer, n'est-ce pas, ou quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette élection présidentielle?
La leçon de l'élection présidentielle, c'est que d'abord elle s'est tenue, hein, elle s'est organisée mal, elle s'est organisée dans le désordre, elle s'est organisée en étant avec toute une série de problèmes, mais elle s'est organisée. Les électeurs congolais se sont massivement mobilisés, même si c'était pas une majorité, c'est quand même une mobilisation massive, hein, donc ça veut dire quand même quelque chose. Dans l'imaginaire politique des Congolais, ça veut dire que c'est très important d'aller voter, et donc malgré les difficultés, malgré les heures d'attente, il y a beaucoup de gens qui ont fait des gros efforts pour aller voter, que ce soit pour ou contre le président actuel. Et donc, effectivement, c'est un processus qui me semble positif parce que, je dirais, à force de répéter les élections, eh bien peut-être que les décideurs politiques vont comprendre qu'on ne gagne des élections qu'en donnant à la population ce dont elle a besoin, c'est-à-dire un niveau de vie acceptable et la sécurité.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Et merci aussi à Kelly Nkouté et Dona Madimba qui l'ont réalisé avec Mimi Kindou qui était à la technique, avec la participation de Clément Chimanga, de Paul Badianyama et Alain Bidoya sous la supervision de Mathé Sepoujangwe. Merci encore une fois de plus, c'est Guy Maté qui était à la présentation de l'émission. Apparemment, les collègues sont là.
Merci, voilà. Merci aux auditeurs qui nous ont accompagnés durant toute l'année 2023. Oui. On espère qu'en 2024, vous serez encore très 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 nombreux à être avec nous, à nous suivre sur toutes nos plateformes numériques, Facebook, Twitter, n'est-ce pas, Suzanne, Zobo, Instagram.
Voilà, Suzanne est là. Merci à vous.
Merci à vous. Grâce à Mzati est là. Maman Noëlla, Luzito est là.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir à Mzati,
Suzanne, Zobo. Des petits poissons, des menus grains.
Voilà.
Merci.
Je suis très contente d'être avec vous voilà, pendant toute l'année, durant toute l'année 2023.
Merci.
Bonne chose, fidélité.
Merci, nos voeux les meilleurs.
Bonne année.